Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Avant d'écouter ce nouvel épisode de Aix, je tenais à partager ma dernière trouvaille extraordinaire. The Braderie, vous choperez des pépites mode, déco, cosmétiques et voyages à des prix imbattables. C'est une application qui réinvente les ventes privées et qui est aussi le sponsor de cet épisode. Et si The Braderie est devenue la destination shopping de toute une génération avec plus d'1 million d'utilisateurs et plus de 470 000 abonnés sur Instagram, c'est pas seulement parce que les meilleures marques sont à moins 70% toute l'année, comme Bash, Jonac, American Vintage, Petit Bateau ou encore Gany. C'est surtout parce que les ventes débutent sur l'application une heure avant leur mise en ligne sur le site internet. Et oui, t'as bien entendu, les ventes se lancent une heure avant sur l'app. Une raison de plus pour l'avoir toujours dans ton tel. Et avec le code promo X15, tu bénéficies de 15 euros de réduction sur ta première commande des 60 euros d'achat. Alors n'attends plus, télécharge l'application The Braderie. Bonjour, je suis Agathe Le Caron. Bienvenue dans Aix, le podcast qui vous parle d'amour au travers d'histoires toujours extraordinaires. Qu'est-ce qui nous fait basculer dans l'amour? Est-ce que l'amour, le vrai, se construit? Ou bien il est immédiat? Chelsea nous le prouve encore aujourd'hui, la seule règle en amour, finalement, c'est qu'il n'y a pas de règle. Attention, dans la deuxième partie de l'épisode, un passage peut heurter votre sensibilité.
On est en septembre 2018. À ce moment-là, je change complètement d'orientation scolaire, parce que jusque-là, je faisais des études de sage-femme. Et cette année-là, en 2018, je décide de faire des études de commerce. J'ai envie de complètement changer de voie parce que j'ai l'impression que là où je suis, à ce moment-là, je stagne dans mes études, que je ne me vois pas faire des études d'être sage-femme toute ma vie. Et j'ai envie de faire de nouvelles expériences, de rencontrer de nouvelles personnes, d'apprendre de nouvelles choses aussi, parce que j'adore apprendre. Et donc, à ce moment-là, quand j'entame mes études à l'ICHEC, qui est une école de commerce à Bruxelles, je suis encore en couple avec mon amour de jeunesse, avec qui je suis depuis que j'ai 17 ans. Donc, c'est vraiment mon premier grand amour, avec qui je suis très fusionnelle. On partage tout, je connais très bien sa famille, c'est comme la mienne. Donc, c'est un changement radical et qui n'est pas forcément bien accueilli de son côté de la famille. Sa famille me dit que c'est triste, que j'arrive pas à me trouver, que j'arrive pas à trouver qui je suis, que je devrais rester dans les études dans lesquelles je suis et que d'après sa maman, de toute façon, je réussirai pas mes études là-bas parce que c'est une grosse école quand même qui est très élitiste par chez nous, donc c'est vrai que c'est très difficile. Et donc elle me dit simplement que je n'y arriverai pas et que c'est pas fait pour moi. Donc j'entame ce processus en me disant j'ai vraiment envie de réussir et je veux mettre toutes les chances de mon côté pour réussir. Et là, du coup, avant d'entamer cette rentrée académique, je décide de faire des cours d'été dans cette école de commerce parce que je me dis ça va être un bon moyen de rencontrer des nouvelles personnes et d'entamer une rentrée plus sereine vu que c'était pas ma première rentrée. J'avais l'impression d'être un peu vieille pour commencer l'ICHEC. Et là, ça se passe super bien. Je me tisse très rapidement des amitiés très fortes. Et surtout, progressivement, je me rends compte que je me détache de ce premier amour de jeunesse que j'avais. On s'éloigne, en fait, progressivement. On n'a plus les mêmes centres d'intérêt. Les propos de sa famille m'ont fortement blessée, surtout. Et je me dis, je ne me vois pas continuer avec quelqu'un dont la famille ne m'estime pas, en fait, pour ce que je suis et pense que je vais échouer, en fait, dans quelque chose qui était si important pour moi à cette époque-là. Et surtout, quand je commence ces études à l'ICHEC, je me rends compte progressivement que je plais à pas mal de garçons qui me regardent. Le premier quadrimestre se passe dans cette école-là. On s'éloigne de plus en plus avec Robin. On n'a plus d'atomes crochus, au point où, une semaine avant les vacances d'hiver, de Noël, je décide de le quitter. Il le vit très mal, moi aussi, forcément, parce que ça faisait longtemps qu'on était ensemble et que juste après l'avoir quitté, mais je pense que c'est une réaction naturelle, je me dis « catastrophe, qu'est-ce que j'ai fait ? J'aurais jamais dû le quitter. » Voilà, ça ne va pas. Je perds totalement mes repères. Je perds une famille chez qui j'allais très souvent, donc c'est très très difficile pour moi. Et forcément, on fait des petits comebacks, on revient ensemble, on recasse, et ça dure comme ça pendant quelques mois. Mais dans le même temps, outre ma relation sentimentale, je trouve totalement ma voie au niveau de mes études et je trouve surtout ma voie avec un cours que j'ai, qui est le cours de comptabilité en première bac, qui est un cours extrêmement difficile en première année. On va dire que c'est vraiment le cours pour nous faire rater notre première année, entre guillemets. Et je trouve ma voie dans le fait où j'adore enseigner ce cours à d'autres amis en fait, qui sont en difficulté. Et je me mets à donner des petits cours particuliers par-ci, par-là de comptabilité. Et à ce moment-là, j'ai un organisme de soutien scolaire qui me repère pour mes cours de comptabilité et qui me propose de donner ces mêmes cours au sein de leur organisme durant l'été. Alors durant l'été, je réussis brillamment ma première année et donc je n'ai absolument rien à faire. Et donc je me dis, très bonne idée, ça va me faire un peu de sous. Donc je me retrouve en juillet à donner mes premiers cours de groupe dans cet organisme. Un peu stressant pour moi parce que je n'avais jamais réalisé cet exercice-là. Là, vraiment, le fait de transmettre, c'était incroyable pour moi parce que j'avais l'impression de trouver ma place, en fait, de comprendre ce que je voulais vraiment faire dans la vie parce que j'adorais mes études, mais à ce moment-là, j'enseigne à d'autres élèves et j'ai l'impression de trouver une place dans l'univers quelque part, de me dire « Ah, ça, c'est vraiment fait pour moi, j'adore donner cours ». Et j'y prends vraiment beaucoup de plaisir, en fait. C'est une vraie révélation. Je suis super bien dans ce que je fais. Donc, on va dire que autant académiquement que professionnellement parlant, je trouve totalement ma voie. Dans ce même organisme, en fait, il y a d'autres tuteurs, dont un prof de maths. Et au terme d'un de mes cours, je le rencontre. Parce que j'avais fini, j'étais encore dans la classe. Et lui, il allait enchaîner avec un autre cours. Donc je rencontre et le directeur de l'organisation, il nous présente. Il dit c'est Antoine, c'est lui qui dispense les cours de maths. Là, je le regarde, je me rappelle encore, il portait un t-shirt Bordeaux. Je m'en souviendrai, je crois, toute ma vie. Je trouvais qu'il avait des très beaux bras. C'est un truc qui m'a très fort marqué à ce moment-là. Mais vu que j'étais un peu stressée parce que c'était mes premiers cours, je le regarde pas forcément, on se voit vraiment en coup de vent. Je me rappelle juste qu'il était très souriant. Mais moi, bizarrement, il m'impressionnait. Donc je me disais, ça a l'air d'être un grand, il a l'air d'être en master, j'en sais rien. Mais ça m'impressionnait un peu, donc je ne le regarde pas plus que ça. Et puis dans le même temps, j'étais encore en train d'avoir une relation avec Robin un peu. Donc j'étais sur toute autre chose. Donc on se voit en coup de vent à ce moment-là et ça s'arrête là, on va dire. J'ai vraiment besoin de retrouver de l'attention chez quelqu'un. Donc je me mets sur Tinder, je swipe pour essayer de trouver quelqu'un. Et assez rapidement, en fait, je rencontre une nouvelle personne avec qui on se voit, ça match très rapidement. Au tout début, avec cet homme-là, tout se passe très bien. C'est une super relation, on est très proches. Je retrouve un peu cette fusion que j'avais pu avoir avec Robin et tout ça. Et puis, d'un coup, il me donne plus signe de vie. Alors qu'on était ensemble, il s'ensuit qu'il revient plusieurs fois, je reviens vers lui, il revient vers moi, mais à chaque fois, c'est pour se faire beaucoup de mal, en fait. C'est pas du tout une relation saine. On est très passionnel, mais en même temps, on se déchire énormément. Donc, j'ai tout le temps cette relation qui est là près de moi, mais tout le monde me dit à ce moment-là, il faut surtout pas que tu restes avec, c'est pas sain, c'est pas bon pour toi. Dans le même temps, je continue à travailler, mais surtout, je sors beaucoup. J'ai un groupe d'amis avec qui je fais beaucoup de sorties. Donc, on est très souvent en soirée étudiante. Je sors presque tous les soirs, je dirais. Ce qui est bien et pas bien en même temps, parce que enfin le fait de sortir, ça me permet d'un peu oublier tout ce qui se passe de négatif et le fait que j'ai un gros vide dans mon cœur de cette relation. Mais voilà, je profite de la vie à 100% et je continue progressivement mes études à l'ICHEC et je continue surtout à donner des cours de compta, ce qui me rend très très heureuse. Donc je vais dire que c'est le seul truc qui allait très très bien dans ma vie à ce moment-là, c'était de donner ces cours. Donc je continue à donner des cours dans l'organisme qui m'avait engagée en été et du coup je suis amenée à revoir Antoine. Plusieurs fois, on est dans le même open space, donc on fait des grandes discussions, on papote pas mal, on révise ensemble dans cet open space, donc voilà, on est amené à se voir pas mal. Mais j'apprends que il est casé depuis des années avec la même fille, donc je ne penserais même pas à quelque chose avec Antoine et ça ne m'est jamais même venu à l'esprit. Parce que j'ai toujours recherché des garçons très extravertis, finalement qui me faisaient plus de mal que de bien, mais j'ai toujours eu ce genre de relation. Alors qu'Antoine, c'est tout l'opposé. Il est très calme, c'est quelqu'un de très gentil, voilà, qui c'est pas du tout quelqu'un d'extravagant ou quoi que ce soit. Donc je sais pas pourquoi, mais à ce moment-là, ça m'attire pas du tout. Pour moi, il est tellement lisse, bien, que c'est pas possible, ça n'est pas bon pour moi, en fait. C'est du style, il ne sort pas, il ne boit pas du tout d'alcool, alors que moi, je suis une énorme fêtarde qui sort beaucoup, donc vraiment, on est à deux opposés. Mais on se rejoint dans tout ce qui est les aspirations professionnelles. Il aime autant donner cours que moi, il a les mêmes ambitions, il a rêve d'être indépendant. Voilà, il a la même vibe que moi à ce moment-là et on s'entend super bien et surtout, on a des expériences de vie qui sont très similaires parce que du coup, à 18 ans, on a tous les deux vécu un très gros trauma qui nous a profondément marqués. Moi, j'ai mes parents qui ont fait faillite quand j'avais 18 ans et donc j'ai tout perdu à ce moment-là, ma maison, les voitures, enfin absolument tout ce qui constituait ma vie, je l'ai perdu à ce moment-là, ce qui m'a vraiment profondément choquée. Et qui a vraiment laissé une grosse marque indélébile sur moi. Lui a vécu quelque chose que je qualifierais quand même d'encore plus grave dans le sens où il était parti dans une année sabbatique en Australie. Et là-bas, sans crier gaffe, il a fait une rupture d'anévrisme total au cerveau. Donc ce qui aurait pu lui coûter la vie. Mais il a eu la chance inouïe d'être à côté d'un des meilleurs hôpitaux d'Australie spécialisé dans le cerveau. Et il a été récupéré par un chirurgien extraordinaire qui lui a sauvé la vie. Ça nous a amené tous les deux à avoir beaucoup de résilience. Et la résilience, c'est vraiment un mot qui est super important dans notre vie. Et donc vraiment, on se retrouve dans nos discussions qui sont très profondes, toujours. Et voilà, c'est vraiment là où on se rencontre au fur et à mesure. Vraiment, à ce moment-là, on est amis. On est totalement dans une amitié. Et en tout cas, de ce qui m'a toujours fait paraître et dire, il est très amoureux de sa petite copine de l'époque. Tout le monde me dit, voilà, c'est une relation, ils seront toujours ensemble dans 20 ans. Donc je suis très heureuse pour lui. Et moi, je les vois comme un couple idéal, vraiment. En février 2020, lui part en Erasmus à Taïwan. Donc il part pour les 6 prochains mois. Il est très content de cet Erasmus. Et moi, je suis très contente pour lui aussi, même si je suis un peu triste, on ne se verra plus pendant 6 mois. Mais voilà, c'était vraiment une de ses volontés de partir en Erasmus. Évidemment, arrive ce que tout le monde a connu, donc arrive le Covid. Donc ici, on est tous confinés. Lui, il a beaucoup de chance parce qu'à Taïwan, il n'y a pas beaucoup de cas à cette époque-là. Donc même si le pays est fermé, il peut faire quand même pas mal de choses. Mais il se fait qu'on a une opportunité professionnelle commune dans le sens où notre école nous demande de devenir tuteur pour les élèves, lui en maths et moi en comptabilité. Parce qu'il y avait un petit peu des couacs au niveau des professeurs ou des choses comme ça. Enfin, la mise en place, on va dire, Covid était un petit peu compliquée. Donc, on nous propose en fait ce rôle de tuteur à distance. On est à des milliers de kilomètres l'un de l'autre. Lui à Taïwan, en plus, lui avec le décalage horaire. Donc, il donne des cours très tard pour que ça soit dans des heures académiques respectables, on va dire. Et moi, ben, je suis ici tranquillement. Je vis ma vie de confinée. Tout en donnant des cours. Et cet événement, je dirais que c'est ce qui nous rapproche parce qu'on s'appelle tout le temps. On s'appelle en FaceTime pour, on va dire, débriefer de nos cours, pour parler de ce qu'on a vécu dans la journée. Mais au final, ça devient un peu une tradition. Il m'appelle assez régulièrement. Il va toujours se chercher un McDo. Je trouve ça très drôle. Enfin, on se parle. Et je suis de plus en plus impatiente vraiment de le retrouver. Mais on est toujours dans cette amitié, il est toujours avec sa copine, ils sont très, a priori très amoureux, donc voilà. Il revient un peu plus tôt de Taïwan parce que de base il voulait voyager jusqu'au Vietnam parce qu'Antoine a été adopté, donc il vient du Vietnam de base, mais il n'a jamais eu l'occasion d'y retourner de toute sa vie. Il rentre donc plus tôt et là on décide de se voir et d'aller se faire un resto. Ensemble, moi je suis hyper contente, ça fait une semaine qu'il est rentré, on se fait un resto, il pleut des cordes, je le pousse absolument à aller boire un verre avant le resto, il déteste parce qu'il pleut des cordes, il ne comprend pas pourquoi est-ce que je veux absolument aller boire un verre, moi je dis mais c'est sympa d'aller boire un verre. Et puis on va manger dans ce resto et là j'ai l'impression que c'est la première fois qu'on a une conversation sincère au point de vue sentimental. Parce que finalement, sa relation que j'imaginais idyllique avec sa copine, mais j'apprends en fait qu'ils se sont déjà séparés plusieurs fois, que c'est pas si idyllique que ça. Il m'en parle vraiment à cœur ouvert pour la première fois, alors qu'il m'avait toujours fait paraître que tout allait très 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 bien. Ben, de fil en aiguille, je me rends compte qu'au final, ben, peut-être qu'il est un petit peu dans la même situation que moi, j'avais avec Robin, dans le sens où c'est sa première relation, son premier amour, et qu'il est très difficile, évidemment, de se détacher de ce premier amour parce qu'on a ses habitudes, en fait. Et donc moi, là, à ce resto, je lui demande de cash, je lui dis « mais t'es sûre que c'est la bonne, que tu n'aurais pas besoin de voir autre chose ?» Mais Antoine, c'est pas son genre, c'est quelqu'un de très fiable, de très fidèle, très constant. En fait, il ne se pose pas du tout cette question-là à ce moment-là et voilà, ça en reste là, tout simplement. Puis l'été se passe, on continue à donner des petits cours de groupe chacun. À ce moment-là, moi, je suis avec quelqu'un, mais ça se termine. Rien d'extraordinaire. Fin de l'été, on se refait encore un resto avec Antoine. On est vraiment, je dirais, à ce moment-là, on est devenus les meilleurs amis. C'est mon meilleur ami, c'est la personne avec qui je parle le plus et le plus souvent, mais toujours très platonique. Il n'y a aucune ambiguïté et je ne me le permettrai jamais. Surtout que je respecte vraiment sa copine, que j'estime être quelqu'un de très bien. C'est mon meilleur ami, vraiment, et je lui dis tout le temps, t'as tellement de chance dans ta relation, elle est tellement belle. Enfin, vraiment, moi, c'était mon goal d'avoir une aussi belle relation que celle qu'il avait avec sa copine. Et de là, moi, je pars à Tenerife avec un groupe de copines. Grosse soirée, on s'amuse énormément. Et là, Antoine m'envoie un message et il me dit « Je l'ai quitté, comme ça. » Ça ne sort de nulle part, je ne sais pas d'où ça vient, je ne m'y attendais, mais alors pas du tout. Mais moi, bon, je suis à Tenerife, je ne sais pas faire grand-chose, il ne veut pas en parler. Donc il fait un peu silence radio, j'essaye de l'appeler, il ne veut pas répondre. Je ne sais pas d'où vient cette situation. Et de là, je fais une soirée pour mon anniversaire. J'organise, il y a un resto que ma meilleure amie organise pour mon anif aussi. Et de base, Antoine ne devait pas venir parce qu'il n'était tout simplement pas là, il n'était pas en ville. Et là, je suis au resto et qui je vois débarquer ? Antoine. Moi, le sourire jusqu'aux oreilles, j'étais super contente de le voir, évidemment. Ben forcément, enfin voilà, je pensais qu'il viendrait pas et là il débarque. Et à ce resto était aussi présent ma relation toxique, qui à ce moment-là j'étais nouveau avec lui plus ou moins. On discute toute la soirée avec Antoine et ma relation de ce moment-là me fait une crise parce qu'il me dit « Mais de toute façon, dès le moment où il est rentré, tu n'as vu plus que lui, etc. etc. » Mais moi, de nouveau, pas d'ambiguïté dans ma tête, c'est mon meilleur ami. Donc j'étais super contente de voir mon meilleur ami pour mon anniversaire. Je demande à Antoine, je dis « Mais qu'est-ce qui s'est passé ? Pourquoi l'avoir quitté ? Enfin, ça sort vraiment de nulle part. » Il m'explique pas vraiment. Mais un soir, il devait venir à mon côte. Et là, je le vois débarquer, pas seul. Je le vois débarquer avec une fille que je connais. Que je connais de vue de l'école, qui, voilà, je la porte pas forcément dans mon cœur. Et de là, je percute et je comprends l'histoire de la rupture. Et je me dis « Ah !» Ok, tu as décidé d'être avec elle plutôt qu'avec ton ex-copine. Et il me dit oui. Alors je lui demande pourquoi. Je dis, parce que c'est pas du tout une fille qui lui ressemble, en fait. Donc je la vois débarquer et je me demande vraiment, mais pourquoi ? C'est pas du tout le style d'Antoine. Et alors là, il me dit, écoute, j'ai besoin d'un petit peu faire mes expériences, j'ai besoin de vivre. J'ai été dans une relation, ça faisait 7 ans qu'ils étaient ensemble. J'ai besoin de découvrir d'autres choses. Sauf que le temps avance et je vois qu'Antoine dépérit petit à petit parce qu'elle lui met beaucoup de pression, parce qu'elle n'est pas toujours très gentille avec lui et lui n'est pas vraiment amoureux non plus. Donc forcément, ben là, je le vois vraiment dépérir. Mais il n'arrive pas à la quitter. Et il a vraiment du mal à passer le cap. Et donc, ben, moi, un jour, je lui dis « Écoute, il faut que tu la quittes, ça ne va pas, tu es malheureux, tu me le montres, tu m'en parles, donc à un moment, ça doit être terminé. » Et heureusement, plutôt fin février 2021, il passe enfin le cap de la quitter. Mais moi, je suis ravie de retrouver mon meilleur ami rien que pour moi. Et donc du coup, à ce moment-là, on est en mars 2021. Et en mars 2021, pour la première fois depuis le début de notre relation amicale, on est tous les deux célibataires. Alors moi, j'ai vraiment complètement coupé les ponts avec ma relation toxique. Et j'ai décidé de me recentrer que sur moi et de penser que à moi et plus du tout avoir de relations amoureuses parce que j'en avais besoin. Et Antoine n'avait pas l'habitude d'être seul, puisqu'il avait toujours été en couple jusqu'ici. Et donc, ben, fatalement, on va dire, on passe beaucoup de temps ensemble. On passe notre vie ensemble, on fait tout ensemble, on ne sait plus se quitter. On trouve toujours des bonnes excuses pour se voir, parce que dans le même temps, on avait décidé de créer notre propre ASBL de cours particuliers. C'est une association sans but lucratif, donc c'est une forme de société pour de dispenser en fait des cours de groupe. En plus d'être meilleurs amis, on devient associé en affaires entre guillemets. Donc on passe tout notre temps ensemble, vraiment. Ça devient une fusion complète et totale. D'ailleurs, tout le monde s'amuse beaucoup de la situation et il nous dit tout le temps « Ah, mais tu sais plus rien faire sans Antoine ». Et à Antoine, on lui dit pareil « Tu sais plus rien faire sans Chelsea ». Ben nous, à ce moment-là, il y a quand même des petits signes de plus qu'une amitié qui commence à naître, mais ça vient plutôt d'Antoine, qui m'envoie des signes très contradictoires. Il m'envoie des messages « Ah, mais qu'est-ce que je ferais si t'étais pas dans ma vie ?»« À quoi ça sert de s'amuser si t'es pas là ?» Toutes des choses comme ça. On va dire, comme on appelait ça de manière un petit peu drôle, on disait que c'était des petites disquettes qu'il me faisait, mais c'était très... une fois il le faisait, une autre fois il le faisait pas. Donc moi, j'étais pas très sûre. Je pensais bien qu'il y avait quelque chose qui naissait entre nous, qui était là en train de germer. Mais je suis tellement pas sûre sur le moment qu'il se passe vraiment quelque chose que, vu qu'on a une très belle amitié, qu'en plus on est associés, moi je veux pas casser tout ça. Et lui non plus, finalement. On est très bien dans notre relation et on a tellement peur que s'il se passe plus, ça pourrait tout briser, que moi, en tout cas, de mon côté, je ne fais rien. Je laisse et j'attends de voir. Et puis, on arrive tout début avril et il passe une soirée chez moi. Et c'est toujours le temps un peu des confinements, du Covid, où il y avait des couvre-feux. Et on habitait tous les deux à des opposés de Bruxelles. Moi, j'habitais dans le sud, lui, il habitait dans le nord. Et donc, il doit repartir à un certain moment pour rentrer chez lui. Et on est sur le pas de ma porte. Et donc, on doit se dire au revoir. Et là, Antoine avait l'habitude de me faire un câlin pour me dire au revoir. Il me fait un câlin. Et puis là, nos bouches s'effleurent. Mais pas vraiment. On n'est pas très sûrs tous les deux de ce qui vient se passer. Moi, je referme la porte et je me dis, est-ce qu'il a essayé de m'embrasser ou est-ce que c'est moi qui ai complètement rêvé ? Et de là, je suis vissée à mon téléphone et je me dis, est-ce qu'il va m'envoyer un message ? Est-ce qu'il va se passer quelque chose ? Et je dirais, 5 minutes après qu'il soit parti, je reçois un message. Et là, on parle jusqu'à 2h du matin. Et je pense que ça a été vraiment le début de vraiment cette histoire avec les papillons dans le ventre, la super énergie qui fait qu'on tient jusque pas d'heure pour envoyer des messages. C'est vraiment le début de notre histoire d'amour, c'est à ce moment-là. On se révèle rien du tout. À ce moment-là, on se parle pas de sentiments, on se parle pas de relations, on se parle comme des meilleurs amis, on se parle de tout, de rien, sauf de sentiments. Ça n'en venait pas. Il se fait que la même semaine, je devais aller chez ma grande sœur manger, ma grande sœur qui connaît aussi. Et là, il me dit « Ah, mais tiens, j'irai bien avec toi chez ta grande sœur pour manger. » On passe une super chouette soirée, parce qu'on s'entend très bien avec mon beau-frère et ma grande sœur. Et on est toujours dans cette histoire de couvre-feu, et sauf qu'on s'est très fort éternisé chez ma grande sœur, qui habite totalement en dehors de Bruxelles. Et je lui dis, écoute, si on veut rentrer chez soi, il faut choisir. Soit on va chez moi, soit on va chez toi. Mais j'ai pas le temps physiquement de nous conduire dans le sud, puis dans le nord. C'est pas possible. Et là, il me dit, ben, écoute, allons chez moi. Donc, ce qui fait qu'on allait passer la nuit chez lui. Mais il y avait Anguille sous roche, mais on ne savait pas trop où est-ce qu'on en était. Et donc, on arrive chez lui. Il a un extrêmement grand lit, mais vraiment le triple de la taille standard. Donc, ça ne pose pas de problème qu'on dorme dans le même lit parce qu'on pouvait vraiment, si on le voulait, être à deux opposés et pas se toucher. Mais il se fait qu'on papote, on se met au lit, on parle. Puis on se couche. Et là, moi, je me dis, ben voilà, s'il doit se passer quelque chose, c'est le moment, c'est l'instant. Moi, j'ai très envie qu'il se passe quelque chose. Je me dis, s'il ne se passe pas quelque chose ce soir, ça veut dire que je me suis fait des films et que je suis folle et qu'il n'a rien du tout pour moi. Sauf que pendant la nuit, il me tient la main toute la nuit. Il ne se passe rien physiquement, même si moi, j'en avais très envie, mais il me tient la main. Et puis, à un moment, il me serre la main. Donc, je me dis, allez, il va faire le premier pas, mais il se passe toujours rien. Et puis, au final, on se réveille le matin. Il s'est toujours rien passé. Donc, je me dis, bon, bah, je suis folle. Eh bien, non. Au final, on prend son bras à deux mains et on s'embrasse. Pour la première fois. Et donc là, moi, je suis super heureuse. Vraiment, les papillons dans le ventre. Parfait. C'est vraiment extraordinaire, vraiment pour moi. Pour lui aussi, on est super heureux. On est là. À ce moment-là, on se dit, oh, on prend beaucoup de risques parce qu'on a tous les deux. Et là, on commence vraiment à parler de nos sentiments et de tout ça. Et là, on se dit tous les deux, ben voilà, on a un gros stress. On est quand même associés. On est surtout meilleurs amis, on veut pas briser ça, mais notre attirance et notre amour est déjà tellement fort et tellement présent qu'on ne s'imagine pas ne pas être ensemble en fait. Disons qu'à ce moment-là, on discute toute la journée de cette situation. on repasse la nuit ensemble le lendemain et puis on passe une nuit séparée et puis après on s'est plus jamais quitté à ce moment-là. Une semaine après qu'on se soit mis ensemble, j'emménage chez lui. Donc vraiment notre relation, comme Antoine le dit, elle est tellement évidente, logique, simple. C'est surtout ça, elle est simple, que pour nous c'est tellement naturel de vivre ensemble qu'on se pose même pas la question à ce moment-là. On se dit même pas, ça risque d'être difficile, peut-être qu'on va s'embêter l'un l'autre, peut-être que ça va pas aller. Et en fait, très rapidement, on se rend compte que on n'a pas du tout, dans notre état d'esprit, l'envie d'être juste petit copain et petite copine. Et donc, assez rapidement, on commence à parler de mariage. Parce que pour moi, ça a toujours été quelque chose de très important, le mariage. J'ai toujours voulu me marier. Voilà, c'est vraiment un point d'orgue pour moi dans la vie. Lui, pas du tout. Lui, ses parents ont divorcé. Pour lui, il s'était dit « je me marierai jamais ». Mais assez naturellement, de nouveau, c'est une évidence. C'est une évidence pour nous qu'on n'a pas du tout envie de rester dans cette situation. On n'est pas vraiment officiel dans notre tête. Un mois après qu'on se soit mis ensemble, on se fiance. Donc Antoine me fait sa demande, hyper mignon. Il a été chercher ma bague de fiançailles avec ma meilleure amie. Je suis tout émue, je suis hyper heureuse. Je peux pas être plus heureuse que ça. En plus, je me fiance le même jour que ma grande sœur. Donc, on a deux fiançailles le même jour. Enfin, c'était vraiment magique. Sauf que nous, on est un peu dépressés. Et donc, on décide de se marier à la fin de l'été. On n'a pas du tout envie d'attendre. On n'a pas du tout envie de préparer un grand truc qui va nous prendre des années. Nous, tout ce qui nous importe, c'est d'être mariés et d'être ensemble. Donc du coup, on décide de se marier en septembre 2021. Du coup, tout l'été, on travaille énormément pour pouvoir potentiellement payer notre mariage. Sauf qu'en juillet 2021, donc on est en train de travailler, mais je me sens pas très en forme. Je sais pas, je me sens un peu vaseuse, pas top. Et surtout, j'ai très mal au sein. Et là, je me dis, c'est quand même bizarre. Je comprends pas parce que je me dis, ça se trouve, je suis enceinte. Enfin, mais je sais pas pourquoi l'idée me vient comme ça, mais c'est parce que j'ai très mal au sein. Je me sens un peu vaseuse. Et bon, j'ai quand même fait des études de sage-femme avant de faire mes études de commerce. Donc, je me dis, j'ai quand même des symptômes, mais ça me semble tellement improbable parce qu'à cette époque-là, j'ai un stérilet. En plus, un stérilet hormonal. Donc vraiment, je me dis impossible parce que les probabilités de chance de tomber enceinte sur un stérilet hormonal sont de l'ordre de 0,01%. Et bien du coup, je dis à Antoine, écoute, on va aller acheter un test. Je veux quand même m'assurer que c'est pas ça. Je fais un test, persuadée qu'il va revenir négatif. Et là, marqué enceinte. 3 semaines, un truc comme ça. Je suis sur le cul. Vraiment, on est dans la chambre à coucher, à deux. On regarde ce test et on ne comprend pas, vraiment. C'était totalement impossible en ayant ce stérilet. C'est un cataclysme, vraiment. Mais c'est un cataclysme et en même temps, très très rapidement, on se dit « mais on le veut, cet enfant ». De toute façon, s'il est là, c'est que moi, je crois beaucoup au destin. Donc je me dis bah, « si le destin me l'a mis sur mon chemin, c'est que ça doit se faire comme ça ». Je fais une fausse couche quelques jours après. Je suis dévastée. Je suis extrêmement triste de cette perte. Antoine aussi, il est très triste. On accuse un peu le coup tous les deux. Je suis pas très bien parce que je perds beaucoup de sang. Donc voilà, je devais beaucoup travailler et en même temps, j'étais pas très bien physiquement à ce moment-là. Par contre, on se dit directement. Ben voilà, ça nous a peut-être montré une chose, c'est le fait qu'on veut avoir un enfant ensemble. C'est sûr et certain. Et ce désir d'enfant, il va vraiment être là. Et il va être énorme. Vraiment, c'est au moment où on perd ce bébé, on est vraiment là, on veut un enfant. On se raisonne un petit peu parce que notre mariage est dans un gros mois. Donc on se dit, bon, on va temporiser les choses, on va pas se remettre en essai bébé ici maintenant. On va attendre que le mariage passe. que quelques petits événements passent et puis après, on verra où on en est. Donc, notre mariage se passe. On est super heureux. La journée est géniale. On fait un week-end avec nos copains. Enfin, vraiment, c'est un super mariage. Très heureux. On part en lune de miel. On a une super lune de miel. Et là, moi, je suis dans la foulée engagée à la Banque Nationale de Belgique. Je suis très contente d'être engagée là-bas parce que j'avais envie de commencer ma carrière dans ce genre de grosse structure. Donc, je commence en octobre et dans la foulée, un petit peu le temps qui suivent, je me dis « Ah ben, ce serait peut-être le bon moment pour relancer un bébé parce que le désir, il a jamais disparu. » Et Antoine m'en parle très souvent, il a très envie, moi aussi j'ai très envie. Et en novembre 2021, on part à Amsterdam faire un petit week-end en amoureux. Et là, pire week-end de toute notre vie, parce que je suis d'une humeur exécrable. Je vais vraiment pas bien, je me sens mal, je veux rien faire. Enfin, vraiment, ça n'allait pas. En plus de ça, j'ai mes règles. Donc, je me dis, ça n'a pas marché. Donc, j'ai un peu la déception parce que je m'imaginais que ça marcherait du premier coup de tomber enceinte et tout ça. Et donc, on revient de ce week-end très désastreux. Et le lundi qui suivait, j'ai un rendez-vous chez ma gynécologue parce que je voulais parler de mon projet bébé et tout ça. Le rendez-vous se passe, elle me pose des questions et donc elle me dit on va faire quand même un petit examen gynécologique, voire on va faire une petite écho pour voir si tout se passe bien à l'intérieur. Là, elle fait l'écho et en fait, je suis enceinte. Là, c'est la stupeur, je suis toute seule, parce que de base, ça devait juste être un rendez-vous de contrôle, et je me retrouve à faire ma première échographie enceinte, en fait, de toute ma vie. Et j'étais vraiment, en fait, au tout début, et j'avais pas eu mes règles à Amsterdam, mais j'avais eu ce qu'on appelle des règles de nidation. Là, on est super heureux, on est trop contents que ça ait été aussi vite, que ça ait marché. Vraiment, c'est le bonheur absolu. Mais je tombe malade parce que j'ai ce qu'on appelle un hyperémésis. Ça veut dire que je vomis non-stop lorsque je suis enceinte. Et c'est vraiment des vomissements qu'on ne sait pas arrêter. C'est des nausées perpétuelles, c'est une très grande fatigue. Je me retrouve aux urgences plusieurs fois pour être hydratée. Je viens un premier trimestre avec lui très éprouvant. Et là, on arrive au 17 janvier 2022. C'est notre rendez-vous de fin de premier trimestre. Donc à la fin du premier trimestre, il y a une grosse échographie pour voir un petit peu si tout va bien, si le développement se fait bien. Donc on arrive à cette première grosse échographie très impatient. Parce que c'est la première fois, on va vraiment bien voir notre petit bébé, donc voilà. Donc on s'installe, la gynécologue débute l'examen, elle nous dit à chaque fois « c'est parfait, c'est parfait, c'est parfait, c'est parfait ». Et là, elle arrive à l'examen de la nuque, et là, elle me dit « la clarté nucale est augmentée ». Alors, la clarté nucale est augmentée, moi je comprends directement. Forcément, j'ai fait des études de sage-femme, et moi je sais ce que ça veut dire. Et Antoine ne sait pas du tout ce que ça veut dire. Donc il est à côté de moi et lui comprend pas. Il me regarde, il voit juste que la gynécologue et moi on fait des têtes d'enterrement. Mais lui, il comprend pas. Donc il a besoin de s'asseoir parce qu'il voit qu'on fait des têtes d'enterrement, donc il se dit qu'il y a un problème. Et là, il me dit « qu'est-ce qu'il y a ?» Et moi, je fonds en larmes et je lui dis « trisomie ». C'est le seul mot que j'arrive à sortir de ma bouche à ce moment-là parce que c'est la principale chose que peut-être c'est une clarté nucale augmentée. Il y a plein d'autres choses que ça peut être, mais c'est un des gros risques. Elle nous explique qu'on va faire des examens plus approfondis en termes de chromosomes, en termes... on va regarder ce qui va ou ce qui ne va pas. Mais elle nous explique aussi que ce sont des examens qui prennent un petit peu de temps. Donc, on ne peut pas savoir du jour au lendemain ce qu'il en est. Et donc, elle nous prend un rendez-vous à un hôpital universitaire qui est près de chez nous et qui s'occupe de tout ce qui est grossesse à risque, où on fait un prélèvement de mon placenta. Donc déjà, c'est le genre d'examen, je souffre énormément. Prélever du placenta, ça fait pas du bien, vraiment pas. Mais Antoine m'accompagne à tout ça, est super soutenant, il est hyper présent. Moi, je le vis très, 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 très mal parce que j'ai des connaissances dans ce domaine-là qui m'amènent à bien me dire que ça va mal finir. Et je me le dis depuis le début. Lui a cette innocence, en fait, cette méconnaissance qui fait que lui, contrairement à moi, il est plein d'espoir tout le temps. Et donc, on fait tous ces examens. On a d'abord les résultats de tout ce qui est analyse chromosomique qui ne révèle rien. À chaque fois qu'on fait une échographie, on apprend un petit détail en plus qui ne va pas. Mais à chaque fois, il n'y a pas suffisamment quelque chose pour qu'on nous propose éventuellement une interruption de grossesse. À chaque fois, il nous révèle un truc supplémentaire en échographie et je sais que c'est pas bon et je comprends le langage de tous ces gynécos et de tous les assistants qui nous tournent autour alors qu'Antoine ne comprend pas la moitié des trois quarts de ce qu'ils ont raconté. Et donc, bah, parfois, ça nous amène à avoir des tensions parce que, ben, j'essaie de lui faire comprendre. Tu dois arrêter d'avoir de l'espoir. Je lui dis, tu dois essayer de te préparer au pire parce que c'est ce qui pourrait arriver. On n'est pas sur la même longueur d'onde au niveau de ce côté optimiste et pessimiste, mais on est très fort. On est toujours très fort ensemble. Il me soutient dans chacun des examens qu'on doit faire, dans chacun des rendez-vous. Il est toujours là, toujours présent, toujours encadrant, entourant. Et c'est vrai que même si c'est une épreuve horrible à ce moment-là, nous, on se renforce et on continue à avancer dans cette grossesse. Sauf qu'au cours de mon 7e mois de grossesse, là, on fait une nouvelle échographie et là, on se rend compte qu'il y a du liquide qui commence à entourer les organes de notre petite fille. Et le liquide commence à comprimer ses poumons, son cœur, et on nous explique qu'elle est en train de faire ce qu'on appelle un hydrops et que malheureusement, on ne trouve pas la cause de ça et que ça va aller en s'empirant. Et que dans tous les cas, elle mourra dans mon ventre dans les semaines qui viennent. Donc à ce moment-là, on nous parle pour la première fois d'une IMG, donc une interruption médicale de grossesse. Moi, je suis dévastée. Parce que j'en suis quand même très loin dans ma grossesse. Que je m'imagine pas faire ça, que ça va être très dur, parce que du coup, on nous explique que malheureusement, à ce stade-ci, vu qu'on est très loin dans la grossesse, je n'ai pas le choix, que je vais devoir accoucher, mais que je vais devoir accoucher d'un enfant qui sera déjà décédé. Antoine, évidemment, perd tous ses espoirs, parce que ben, il sait que c'est fini, mais il a besoin d'avoir encore une connexion avec sa fille. Donc, dans les jours qui précèdent l'IMG, il me demande très souvent de toucher mon ventre pour pouvoir la sentir encore bouger. Moi, je le vis de manière très difficile parce que je porte un enfant qui, je sais, sera décédé dans quelques jours. Et j'ai l'impression un peu ma faute puisque c'est moi qui décide l'IMG, même si voilà, je savais que l'issue serait fatale dans tous les cas. Et donc, je me sens très coupable vis-à-vis d'Antoine parce que j'ai pas envie qu'il touche mon ventre. J'ai envie de faire abstraction complètement de cette grossesse. Je commence à me cacher. J'ai plus envie qu'on voit que je suis enceinte. Mais bon, se cacher à 7 mois de grossesse, c'est pas super évident. Et bah, du coup, le 4 mai, on arrive à notre interruption, notre accouchement. Et donc, le 4 mai, isothénasie Lucie. J'accouche seulement 30 heures plus tard, le 5 mai à 19h06, de Lucie. On a l'occasion de la voir. On nous la laisse. Au début, je voulais pas du tout. Mais c'était quelque chose de très important pour Antoine. Il avait vraiment besoin de la voir. Et on a bien fait. Parce que ça a été très, très bénéfique pour nous de la voir. Mais moi, j'étais épuisée. À ce moment-là, Antoine, il ne se rendait pas forcément compte, mais je venais de vivre 30 heures d'accouchement sous péridurale avec une tonne de médicaments pour me faire accoucher. J'étais épuisée mentalement, physiquement, j'en pouvais plus, je faisais que pleurer. Je n'arrivais pas à m'en remettre, en fait. Je faisais que pleurer, pleurer, pleurer. On laisse partir du coup Lucie pour l'autopsie, parce qu'on a demandé à avoir une autopsie pour essayer de comprendre, d'avoir des réponses. On demande également qu'ils continuent les analyses génétiques parce qu'on aimerait savoir si c'est possibilité que ça soit héréditaire. Sauf que les analyses génétiques prennent beaucoup de temps. On nous explique qu'à partir du moment où elle naît, il y a encore besoin de 4 mois pour avoir une potentielle réponse. C'est une épreuve parce qu'on n'a pas de réponse, qu'on l'a perdue et qu'on ne sait pas pourquoi on l'a perdue. Donc on se retrouve à rentrer chez nous sans elle. On a fait évacuer sa chambre de bébé parce qu'on ne voulait plus voir des choses dans cette pièce qui nous la rappelait. Et là, moi, pendant une bonne semaine, je ne fais que pleurer. Je n'arrive pas à sortir de mon lit. Ben, Antoine aussi, il pleure beaucoup. On a du mal tous les deux à sortir la tête de l'eau. Et je me sens extrêmement coupable pour Antoine parce que je me dis que c'est de ma faute. S'il est si malheureux, s'il n'était pas avec moi et si je n'avais pas perdu notre bébé, ben, il ne pleurerait pas. Et moi, le voir souffrir, c'était la pire chose qui soit. Parce que je blessais la personne que j'aimais le plus au monde. Et c'était horriblement difficile pour moi à vivre. On continue à avancer et notre thérapie, on va dire, c'est de travailler. On fait que ça, on donne des cours, on n'arrête pas, on travaille. J'ai la chance d'être repérée par une prof de mon école de commerce qui me dit qu'il y a un poste à pourvoir dans mon école en prof de comptabilité. C'est un de mes rêves de donner cours dans mon école. Je rêvais de donner ce cours-là et je passe les entretiens et je suis prise. Alors dans ce brouillard et cette vie super sombre qu'on avait à ce moment-là, c'était vraiment un rayon de soleil et je l'ai vraiment attribué à Lucie et je me suis dit là, elle est là derrière et elle fait en sorte qu'il se passe quelque chose de bon pour moi et pour que j'aie mieux et pour que j'aie un nouvel objectif. Mais en attendant, on fait que travailler avec Antoine. On s'accorde des petits moments ensemble, on fait des choses ensemble, mais on se noie un peu dans le travail parce que le seul objectif principal qu'on a, c'est d'avoir les résultats génétiques de Lucie qui interviennent que le 14 septembre 2022. Le 14 septembre, c'est le lendemain de mon anniversaire. Donc c'est mon plus beau cadeau d'anniversaire que de savoir ce qui s'est passé. Donc le 14 septembre, on arrive à l'hôpital universitaire, on nous reçoit. Et là, on nous dit que ça n'a absolument rien révélé. Qu'elle a sûrement eu quelque chose, mais que la médecine d'aujourd'hui ne sait pas ce qu'elle a eu. Parce que ça n'a pas encore été connu. Donc tout ce qu'on nous dit, et c'était une des choses les plus importantes pour nous, c'était que maintenant, au jour d'aujourd'hui, on pouvait refaire un bébé de manière tout à fait naturelle, parce que c'était aussi ça qu'on voulait savoir. Pour nous, c'est un immense soulagement de savoir que on a la possibilité de refaire un enfant sans devoir passer par des processus médicaux pour devoir faire nos enfants et tout ça. Mais d'un autre côté, on le vit mal de ne pas savoir ce qui s'est passé exactement. Donc ça reste dans un coin de notre cœur comme quelque chose de pas fini. Il nous demande d'ailleurs, durant la consultation, est-ce qu'on peut conserver l'ADN de Lucie pour au cas où un jour on fait la découverte. Ils nous ont dit, si même dans 10 ans on trouve, on vous appellera. Donc voilà, on reste là-dessus. Et donc on est le 14 septembre et là on dit, ben voilà, on se relance en essai bébé parce qu'on le veut vraiment, notre petit nous. On se relance en essai bébé et je nous vaut beaucoup de chance, mais je retombe enceinte du premier coup. Donc début octobre, je suis enceinte. On est fou de joie et en même temps, on est super angoissé parce qu'on ne veut pas vendre la peau de l'ours, disons, avant de l'avoir tué. On se dit si c'est de nouveau la même chose que Lucie. Et enfin voilà, on est des parents à ce moment-là bourrés d'angoisse, de stress. Notre gynécologue, évidemment, quand elle apprend cette nouvelle-là, elle sait très bien que ça va être une grossesse très suivie. On va devoir faire beaucoup plus d'échographies que les autres, où il va devoir y avoir un beaucoup plus gros suivi. Je suis de nouveau malade, puisque malheureusement, c'est quelque chose qui reviendra à toutes mes grossesses. Donc, de nouveau, c'est une épreuve pour nous, parce que ben, quand j'ai cette hyperémésis, Je ne sais quasiment rien faire dans la maison. Je suis vraiment super fort malade. Je ne sais plus faire à manger. Enfin, voilà, c'est très compliqué. Et surtout, on ne parle de cette grossesse à personne. Parce qu'on a tellement peur que ça finisse mal, en fait, qu'on ne sait pas tous les deux assumer le regard des autres par rapport à ça. On a notre première échographie, la première grosse échographie. Là, on apprend que c'est un petit garçon et que tout va bien. C'est parfait. Il va parfaitement. Il n'a pas de clarté nucale augmentée. Il va merveilleusement bien. Il évolue très bien. Il est vraiment parfait. Et là, on commence à vivre notre grossesse idyllique. On est très suivi, on fait au début des échographies encore toutes les 2 semaines, puis ça commence à s'espacer parce que tout va bien. Et nous, on est sur notre petit nuage. Pour nous, c'est vraiment la consécration de toutes les épreuves qui nous sont arrivées. Et du coup, le 25 juin, à 5h36, est né Liam, qui est notre bébé miracle. Et on est super heureux de l'avoir. Et on pense que Lucie a fait un petit clin d'œil parce que Liam devait naître le 26 et il est né le 25, donc un 5 comme sa sœur. Et il est né à 5h36 et elle est née à 19h06. Toutes des choses comme ça et on sait qu'elle nous fait des clins d'œil tout le temps. Et maintenant, c'est un petit garçon qui a bien un petit peu grandi et il va à la crèche. Et la crèche, sa section s'appelle les Lucioles. Et Lucie, on l'appelle notre Luciole. Donc, c'est tout des hasards, des mystères, mais nous, ça nous forge et c'est quelque chose qui nous relie très fort avec Antoine, toute cette histoire avec Lucie. Et maintenant qu'on a Liam, ça nous a encore plus groupés ensemble. On est vraiment plus proches que jamais et c'est vraiment l'amour de ma vie. J'avais envie de faire ce témoignage aujourd'hui parce que je veux vraiment te remercier, Antoine, d'être là tous les jours, de me soutenir dans tout ce qui peut nous arriver dans notre vie et que même dans les heures les plus sombres, dans les plus grosses douleurs, tu as toujours été mon soutien infaillible, ma constance dont j'ai tellement besoin. Tu es tellement fiable, tu es tellement constant, tu es tellement présent à chaque instant et tu es vraiment le meilleur des maris et surtout maintenant le meilleur des papas. J'aurais pas pu rêver mieux et j'aurais jamais cru avoir une telle chance. Et j'avais envie aussi de témoigner pour parler de Lucie. Et parce que j'espère que si jamais des parents à qui ça arrive maintenant m'écoutent, j'aimerais que vous sachiez qu'il y a toujours la lumière au bout du tunnel et que même si ici ça vous semble insurmontable, vous allez y arriver avec beaucoup d'amour et de patience.
Merci à Clémentine Delagrange qui a réalisé cet épisode et à Stéphane Bidard qui l'a monté et mis en musique. Si vous aimez écouter des histoires de vie extraordinaires, foncez écouter notre podcast « Les Rescapés ». Et si vous êtes parent d'un ado extraordinaire, ils le sont tous, hein, un ado qui se pose beaucoup de questions sur les transformations de son corps ou de sa tête, vous avez aussi « Est-ce que c'est normal ?», notre nouveau podcast qui répond à toutes leurs interrogations les plus intimes. Bonne écoute ! Merci pour votre écoute et merci à The Braderie, notre sponsor. Pour rappel, avec le code promo X15, tu bénéficies de 15€ de réduction sur ta première commande des 60€ d'achat. Alors n'attends plus et télécharge l'application The Braderie.
Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage, all the way to the did we just hit a million orders stage, Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.